L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat européen, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe, en partenariat avec le journal La Croix. À l'ordre du jour ce soir, Estonie et défense. Les trois pays baltes ont signé mi-janvier un accord pour une zone de défense baltique aux frontières russes et biélorusses. Accord qui prévoit pour la seule Estonie la construction de 600 bunkers frontaliers. Car de toutes les nations européennes, les pays baltes ont été les premiers dès leur entrée dans l'Union en 2004 à alerter sur la menace russe sans être forcément entendus par des pays qui tentaient alors de séduire Vladimir Poutine. Mais depuis la guerre d'agression en Ukraine, l'Estonie et les deux autres pays baltes, membres de l'OTAN, comme plus récemment leurs voisins finlandais et suédois, apparaissent peut-être comme des capteurs d'un risque géopolitique majeur. Nous en parlons avec Béatrice Bougnol de La Croix. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Avec Céline Bayou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée au Centre de Recherche Europe-Asie de l'INALCO à Paris. Et avec Kersti Kaljual. Bonsoir. Vous êtes ancienne présidente de l'Estonie de 2016 à 2021. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour cette émission du vendredi, donc les termes du débat européen.
Il y a quelques années, ma grand-mère et ma mère ont été déportées en Sibérie. Et bien sûr, avant cela, il y avait eu un mandat d'arrêt. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que la Russie n'ait pas changé. Je suppose que c'est à cause de mon travail. J'ai été celle qui s'est le plus exprimée sur la préparation défensive de l'Europe. J'ai beaucoup insisté sur l'aide à apporter à l'Ukraine. J'ai beaucoup insisté sur le maintien de l'unité de l'Union européenne et des alliés de l'OTAN. Je pense que ce n'est vraiment pas ce que le Kremlin veut voir.
Vous venez d'entendre la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui s'exprimait mi-février. Elle réagissait à l'annonce de la Russie qui a lancé contre elle un avis de recherche pour une violation à la législation russe. Béatrice Bougnol.
Oui, Céline Bayou, pour commencer cette émission, peut-on déjà expliquer un peu cette situation et les accusations qui pèsent sur la première ministre estonienne ?
Oui, je crois que ces accusations, elles sont assez attendues. C'est-à-dire que la Russie a établi en effet une liste d'un certain nombre de personnalités. Donc il n'y a pas que Kaja Kallas dedans. Il y a pas mal de personnalités baltes, et notamment estoniennes. Et elle est attaquée sur la question de l'histoire. Et ce qui est assez intéressant parce qu'il y a un vrai différent entre la Russie et l'Estonie sur la perception de l'histoire. Et notamment, ce que lui reproche la Russie, en tout cas dans la façon dont elle l'exprime, c'est d'avoir, enfin, que son pays soit un acteur, notamment du démontage d'un certain nombre de statuts qui sont des statuts de l'époque soviétique et mettant en avant la libération des États baltes, en particulier par les soldats soviétiques faisant reculer l'Allemagne nazie. En fait, on sait très bien aussi pourquoi est-ce que dans cette liste, la Russie a ciblé spécifiquement Kaja Kallas, parce que justement, comme elle vient de le dire à l'instant, elle est en pointe, en fait, sur les dénonciations de l'invasion illégitime, illégale et injustifiée de l'Ukraine par la Russie, et qu'elle est une voix en Europe qui porte particulièrement sur ce sujet.
Est-ce que on peut dire, Madame la Présidente, je ne sais si on parle en Estonie comme en France, en parlant des anciens présidents et des anciennes présidentes, en leur attribuant encore ce titre, Kersti Kaljulaid, est-ce qu'on peut dire effectivement que c'est le travail de déstabilisation du Kremlin dans ses pays voisins, justement, dont fait partie l'Estonie, qui est à l'œuvre justement dans cette accusation contre la première ministre de l'Estonie, Kaja Kallas?
Ah oui, cette accusation, c'est juste le normal protocole russe d'intimidation. Donc, rien de spécial dans ça. Et ils ont essayé, bien sûr, de déstabiliser des pays baltes il y a 30 ans déjà. Mais en fait, il faut dire que les dernières deux ans, quand les Russes qui habitent en Estonie ont vu qu'est-ce qui se passe en Ukraine, leur travail est finalement nullé. Il n'y a rien ici. Personne ne voulait habiter la Russie. Personne ne supporte la Russie plus.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, il y a une minorité russophone de 30% de la population en Estonie. Et que cette minorité russophone, j'imagine que le Kremlin, que Vladimir Poutine, que la Russie espéraient d'une certaine manière la retourner contre les gouvernements des pays baltes. Et que c'est ce que vous nous dites, c'est que ça ne marche pas, c'est cela ?
Oui, pas du tout. Peut-être avant de l'agression, on a vu que les personnes âgées qui ont venu ici pendant la période soviétique et passé leur jeunesse pendant les années soviétiques, pour eux, la Russie, c'était un peu plus important. Peut-être ils sont même considérés Poutine quelqu'un qui prend soin de Ruski Mir, le monde russe, de russe. Mais maintenant, tout ça s'est cassé. Donc, Poutine n'est pas assez populaire ici. On va voir comment ça va, les élections en russe. Ici, cette fois, il n'y a que dans le territoire d'ambassade de la Russie où on peut voter. Avant, c'était plus des opportunités. On va voir, est-ce qu'il y a des intéressés ou non. Moi, je pense que non, en fait.
Béatrice Bougnol.
Oui, Céline Bayou, toutes les deux, vous n'êtes pas surprise donc par les accusations qui pèsent aujourd'hui sur la première ministre estonienne, notamment, et vous faisiez allusion à ces soldats, ces sculptures de soldats soviétiques, notamment parce qu'en déjà en 2007, le transfert d'une de ces sculptures de bronze avait provoqué une réaction de la Russie très très forte. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'était passé à ce moment-là ?
Oui, c'était un moment particulièrement intéressant, je trouve, parce qu'en effet, pour les autorités estoniennes, la question était de déplacer une statue, ce qu'on appelle la statue du soldat de bronze, qui était dans le centre de Tallinn, et de la déplacer pour la mettre un peu à la périphérie, au prétexte ou au motif que ça provoquait un désordre, en fait, à l'ordre public. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'en fait, ce déplacement s'est fait, si je me souviens bien, au mois de mars ou d'avril, je crois que c'était avril, et ça veut dire qu'on se rapprochait de la date du 9 mai. Or, la date du 9 mai, pour la Russie, est extrêmement importante, parce que c'est la date où on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La Grande Guerre patriotique.
Voilà. Et du coup, alors, ça a été totalement manipulé par la Russie, j'ai aucun souci avec ça. La date tombait peut-être mal, c'est-à-dire que c'était juste avant. Et que peut-être, si ça s'était fait juste après, ou deux mois après, pendant l'été, ça aurait peut-être été plus calme. Ce qui est sûr, c'est que ça a été manipulé et qu'il y a eu des manifestations organisées par la Russie et puis la fameuse première attaque cyber subie en Europe et qui a attaqué l'Estonie et vraisemblablement venant de Russie.
Béatrice Bougnol.
Kersti Kaljulaï, vous avez quel souvenir, vous, de cette cyberattaque, effectivement, qui a suivi ce déplacement de la sculpture du soldat de bronze ?
Oui, premièrement, les perturbances dans le pays, les gens qui ont participé dans les démonstrations contre ce changement de place de ces monuments, il n'y a plus que 2000, mais il y a plus que 200 000 de russophones en Estonie. Donc, ce ne sont pas les grandes manifestations, pas du tout. Ils sont bien sûr soutenus par les Russes, mais ça n'est pas tenu que deux, trois jours. Mais il a fait ça avant le 9e mai, parce qu'on a vu les provocations. C'était exactement pour ça qu'on a agi avant le 9e mai. L'attaque cyber, c'est une très simple attaque. Le pays a pu se défendre. On n'a pas pu accéder à notre état numérique, qui était déjà entièrement numérique d'étrangers. Moi, j'ai essayé de Luxembourg, par exemple. Ce n'était pas possible. Mais dans le pays, tout a bien marché. Donc, pas si difficile à gérer cette attaque. Mais bien sûr que c'était la première fois. Et après ça, l'OTAN a créé un centre d'excellence ici à Tallinn pour lutter contre les cyber et aussi pour connaître l'espace numérique, un domaine de guerre.
Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Céline Bayou, la question de l'histoire est centrale dans cette accusation contre la première ministre estonienne Kaja Kallas, dans cette manifestation organisée donc pour ce déplacement de cette statue du soldat de bronze en 2007. Ça veut donc dire, et d'ailleurs c'est ce que disait Kaja Kallas quand elle-même faisait appel à l'histoire pour dire « j'ai l'habitude, ma grand-mère a été emmenée en Sibérie, etc. etc. » Il y a donc un poids de l'histoire extrêmement important, puisqu'effectivement une partie des accusations qui sont menées par Vladimir Poutine, c'est de dire que ces pays baltes ont été successivement soviétiques et puis ensuite ont collaboré pour une partie d'entre eux avec l'occupant nazi, et qu'il y a donc là, comme il l'a fait pour l'Ukraine, la possibilité d'attaquer un pays voisin en disant, il dit les ukro-nazis pour les Ukrainiens, mais en disant ce sont des nazis ou des descendants de nazis qui sont encore dans ces territoires-là. Ça, c'est important, cet usage de l'histoire.
Alors oui, parce que pour Poutine, l'usage de l'histoire et la réécriture de l'histoire ou le révisionnisme, c'est vraiment une vraie machine de guerre. Donc avec beaucoup d'ailleurs d'erreurs historiques. Enfin, c'est vraiment une interprétation et une réécriture. Alors à l'égard des États baltes, clairement la question pour Vladimir Poutine, et je pense qu'il instrumentalise la Seconde Guerre mondiale. C'est pas un état des lieux. C'est simplement il utilise certaines choses et il les écrit comme il l'entend. Par rapport à une histoire dont tous les Estoniens ont la mémoire, puisque c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est quelque chose qui est quand même suffisamment récent pour que tout le monde, toutes les familles, et je pense qu'il n'y a quasiment pas de famille en Estonie qui n'ait pas été touchée par soit les déportations, enfin en tout cas des actes pendant la période soviétique qui ont touché chacune des familles en Estonie. Et quand Kaja Kallas dit voilà, enfin parle des déportations de sa grand-mère, etc., c'est extrêmement général. Donc forcément, on comprend que pour les populations baltes, enfin et pour la population estonienne, quand ils pensent Russie, c'est compliqué de penser une Russie qui soit pas une menace. Alors encore plus aujourd'hui, mais même bien avant 2022.
Béatrice Bougnol.
Alors justement, Kersti Kaljulaï, cet enseignement de l'histoire, cette défiance qui prend sa source bien avant l'époque contemporaine. Comment elle a été entendue ou n'a-t-elle pas été entendue par l'Europe, justement ? Est-ce que l'Union européenne a tardé à entendre les alertes que les Estoniens pouvaient lui donner ?
Oui, il y a 30 ans et 20 ans, quand moi je pensais très fortement pourquoi les crimes de Staline n'ont pas reconnu par l'Europe. Par exemple, le symbole des nazis, on ne voit pas en Europe. Mais le symbole comme SSSR ou quelque chose comme ça, on a vu partout, même dans la collection de Nike. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est une grande erreur parce qu'avec ça, l'Europe n'est pas finalement reconnue ce qui est Russie. Et pour nous, c'est un problème, mais bien sûr que beaucoup a été dit que c'est notre période traumatique. Pour nous, on peut comprendre, mais ce n'était pas la même chose. En fait, c'est exactement la même chose. Rien. Ma grand-mère a servi à Goulag aussi pour 9 ans, donc.
Mais c'est peut-être aussi ici. Parce que c'est peut-être aussi, Madame la Présidente, parce que la France a une autre histoire avec le communisme que peuvent en avoir les pays baltes qui ont été donc intégrés à l'URSS, et que le Parti communiste français n'avait pas la même histoire d'une certaine manière, et que les Français n'ont pas la même histoire avec un Parti communiste qui, bon an mal an, a joué le jeu, même tout le temps d'ailleurs, de la démocratie, du vote et du respect du vote. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait ces tensions entre vision du communisme chez vous et vision du communisme chez nous.
Oui, mais moi je pense qu'il y a des communistes, il y a des communistes qui ont fait des atrocités comme Staline. Donc il faut faire la différence.
Mm-hmm, bien sûr.
Chez vous, les communistes n'ont pas tué les gens et envoyés à Sibérie, mais chez nous, ils ont. Et c'est ça la différence. Et moi, je ne vois pas aucune raison de penser que tous les gens qui pensent que le communisme comme un système politique peut être... pourrait exister. Moi, je pense que c'est pas possible, mais bien sûr, dans les pays libres, on peut penser ce qu'ils veulent. Mais reconnaître le crime, reconnaître les atrocités, ça c'est ce qui me manque. Mmh. Et il n'y a rien à voir avec une pensée politique sociale ici.
Béatrice
Karl Mignol. Marx n'est pas là, c'est le Staline qui en parle.
Oui, on a bien compris.
Céline Bayou, que pensez-vous de cette question? Est-ce que l'Union européenne a tardé effectivement à entendre les alertes des Estoniens?
Je dirais que le 24 février 2022 a été une espèce de réveil assez violent. Alors après, je ne dirais pas qu'en Estonie, on a peut-être, est-ce qu'on a vraiment plus anticipé le fait que le 24 février, Poutine allait envahir l'Ukraine?
En tout cas, le 24 février, c'est le jour de l'indépendance, c'est ça pour les Estoniens?
Accessoirement, voilà.
Ouais, c'est pas c'est pour rien.
Symboliquement, c'est important. Mais je pense que vraiment, en fait, les Baltes, à partir de 1991, et l'Estonie notamment, ont toujours gardé un rapport à la Russie qui était un rapport de méfiance. Et qu'au moment où on a eu une espèce d'enthousiasme, et notamment, je pense, aux années 90, c'est-à-dire avant l'arrivée de Poutine, la période Yeltsin, etc., où je crois qu'il y avait vraiment un enthousiasme du côté ouest européen, et on se disait la Russie allait devenir un État, entre guillemets, normal, démocratique, etc., il y a toujours eu une méfiance en Estonie, en disant il faut faire attention. Et au nom de cette histoire, au nom de cette proximité géographique, de cette compréhension, parce qu'on avait pratiqué, et que du coup, ensuite, quand Poutine arrive au pouvoir en 2000, quand il y a les événements en Géorgie en 2008, quand il y a la Crimée en 2014 et le Donbass, etc., à chaque fois, ça a été des coups de semonce. Et je pense que les Baltes, à chaque fois, ont essayé de nous alerter, quand je dis nous, c'est l'UE et l'OTAN en particulier, en disant, mais vous voyez bien qu'il y a un problème avec la Russie, et que nous, on a continué pendant assez longtemps à dire, il faut dialoguer avec la Russie, etc. Alors que pour les États baltes, pour l'Estonie, le dialogue, c'est pas qu'ils le veulent pas, c'est qu'ils le trouvaient vain, de toute façon.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, Madame la Présidente Kersti Kaljulaid, si ce que sont cette zone, ce qu'est cette zone de défense baltique que veulent créer les pays baltes et qu'ils ont signé à la mi-février, donc cette zone de défense qui va conduire effectivement à la construction de bunkers le long de la frontière. Qu'est-ce que c'est que cette zone de défense exactement?
Oui, est-ce que je peux ajouter un peu
bien sur allez-y.
Parce que, bien sûr que pendant, il y a 25 ans, nous avons eu hâte à joindre l'OTAN et l'UE, vraiment rapidement. Mais ce n'était pas seulement les pays baltes, par exemple la Finlande. Pourquoi vous pensez que la Finlande a toutes les défenses, toute l'armée de conscription et tout ça? Pourquoi l'armée de Finlande a plus de chars que les Allemands? Pourquoi? Ils ont gardé leur neutralité, ils n'ont pas parlé très haut, mais ils ont bien pensé la même chose que nous, que la Russie peut être un danger pour nous, pour notre indépendance. Mais bien sûr, pendant les années de Yeltsin, moi et les autres Estoniens, actuellement, on a vraiment pensé que peut-être la Russie va changer. Mais l'Ouest n'a pas soutenu les démocrates de la Russie, en fait. Et c'est un grand problème. Ils ont protesté, ils ont demandé plus de droite, plus d'un pays normal pendant cette période. Même 2011, après la guerre en Géorgie, ils ont essayé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a ignoré. Pas de conditions pour avoir, disons, les liaisons diplomatiques ou économiques avec la Russie. Ils ont déjà suppressé leurs démocrates pendant cette période. Et nous n'avons rien fait.
Oui, effectivement.
C'est un problème. En
fait. Anna Politkovskaya et la mort de beaucoup d'opposants à Poutine auraient pu nous alerter et alerter tout de même des opinions publiques, mais peut-être pas suffisamment, comme vous le dites, Béatrice Bougnol.
Revenons peut-être, Madame la Présidente, sur ce qu'est cette défense baltique qui prend forme aujourd'hui.
Oui, ici en Baltique, nous pensons que tous les pays baltes, aussi jusqu'à la Pologne, jusqu'à la Suvalki-Gap, nous sommes unis pour défendre nous. Et aussi après que la Finlande et la Suède ont joint l'OTAN finalement, nous, avec notre voisin, nous avons très claire compréhension qu'il faut faire là. Aussi amplifié par la présence de l'OTAN ici, les Français, les Anglais en Estonie, merci pour vous. Et parmi notre plan sont aussi les fortifications de notre frontière avec la Russie, exactement en fait comme la Corée du Sud par exemple. Et bien sûr, il y a des questions ici dans notre pays aussi. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça va vraiment détenir la Russie Beaucoup de monde discute sur la ligne Maginot. En fait.
J'imagine, oui, en pensant que la ligne Maginot a été prise assez rapidement pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'on pensait être protégé par cette ligne de bunker et que ça n'a pas été le cas parce que la stratégie allemande a été bien différente de celle qu'on avait prévue. Effectivement, on peut imaginer que les stratèges de Moscou ont des idées pour pouvoir peut-être contourner cette ligne. En tout cas, on ne l'espère pas pour vous, Béatrice Bougnol.
Oui, Céline Bayou, Kersti Karlujai, il faisait allusion. En quoi l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN est en train de créer un nouvel équilibre ?
Alors, ça crée un nouvel équilibre régional parce qu'il y a une cohérence maintenant baltique. Alors, j'ai un peu de mal à parler d'un lac otanien, enfin, parce qu'on voit ça beaucoup. Ouais. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, la Russie a quand même une ouverture sur la Baltique qui demeure. Mais c'est en tout cas une façon de mettre de côté la Russie, de l'isoler ou de l'ostraciser, je sais pas. Bon, voilà, mais
Mais c'est ce qu'on reproche, Vladimir Poutine. Ah, il dit, vous êtes en train de me marginaliser, je n'ai plus qu'une petite sortie au niveau de Saint-Pétersbourg. Entre la Finlande et les Pays-Baltes, et ensuite...
Et puis Kaliningrad.
L'enclave de Kaliningrad.
Mais c'est aussi, c'est-à-dire quand Poutine nous dit ça, c'est aussi le résultat du 24 février. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas envahi l'Ukraine, la Finlande et la Suède restaient des pays non alliés, je ne sais pas si on pouvait dire neutres, mais non alliés, et restaient, enfin je veux dire, depuis 91, ils ne voulaient pas rentrer dans l'OTAN. Donc c'est quand même le résultat de l'action de Vladimir Poutine, et pas le contraire, parce qu'il faut faire très attention avec Poutine qui nous embarque souvent dans un discours inversé.
Vous écoutez le temps du débat, les termes du débat européen aujourd'hui, c'est l'Estonie et c'est la défense, à l'occasion justement de cette signature entre trois pays baltes d'un accord pour une zone de défense baltique. Nous sommes en compagnie de Céline Bayou, qui est chercheuse associée au Centre de recherche Europe-Asie de l'INALCO, et de l'ancienne présidente de l'Estonie, Kersti Karjulaid, avec nous jusque donc à 19h dans le temps du débat.
J'ai longtemps hésité à rejoindre la Ligue de défense estonienne. Mais quand la Russie a attaqué l'Ukraine, j'ai compris que c'était urgent.
Comment est-ce que tu vois les Russes ?
Je n'en ai pas une image idéale. Je ne les aime pas vraiment.
Je veux pouvoir défendre ma patrie, mon droit de vivre en liberté. Personne ne peut me prendre ça. J'ai une vie simple, mais je veux être prête si cela tourne mal.
Je suis content de me battre contre eux. Je préfère me battre en homme libre que vivre une vie d'esclave. J'ai peur que la guerre arrive ici un jour ou l'autre. Tant que je peux me battre, je préfère mourir que de voir mes enfants tués.
France Culture, les termes du débat européen. Emmanuel Laurentin.
Un extrait d'un reportage diffusé sur la chaîne suisse la RTS où l'on entendait des membres engagés dans la Ligue de défense estonienne. Est-ce que vous pouvez nous dire, Kersti Karjulaid, ce qu'est justement cette Ligue de défense estonienne qui a disparu sous l'Union soviétique et qui a réapparu ? Je crois qu'il y a un terme, moi je ne parle pas du tout votre langue, mais qui s'appelle Ole Valmis, soyons prêts, qui veut dire aussi que tous les Estoniens et peut-être même tous les membres, les habitants des Pays-Baltes se sentent prêts pour pouvoir défendre. La particularité, c'est que vous avez un service militaire obligatoire qui dure de 8 à 11 mois, ce qui est une particularité par rapport à nous qui avons maintenant une armée de métier. Qu'est-ce que c'est que cette nation qui n'est peut-être pas une nation en armes, mais qui pourrait le devenir en cas de mobilisation générale ?
Oui, moi j'ai un fils en réserve, un autre fils qui serve son conscription en ce moment en fait. Donc c'est normal ici, c'était toujours comme ça. Mais en fait, nous trouvons qu'en ce moment, nous sommes mieux protégés qu'il y a 2 ans. Et vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que l'Europe se réveille maintenant. Assez danger, assez risque. Écoutant votre président Macron, écoutant lui dire, par exemple, qu'on a dû... avant déjà écouter ce que les Pays-Baltes discutent. Mais en ce moment, le grand problème, quand même qu'on parle beaucoup, mais on fait moins en fait. Donc il faut rapidement croître notre production des obus, par exemple, en Europe et tout ça. C'est très, très important. Mais pour nous, il y a 2 ans, nous avons su que les plans de défense de l'OTAN n'ont pas suffisant de vraiment faire sûr que la Russie ne risquera d'attaquer les Pays-Baltes. Maintenant, l'OTAN va avant rapidement. Donc ici, on s'en sait mieux protégé, faut dire, en ce moment.
Béatrice Bougnol.
Céline Bayou, effectivement, l'Estonie alerte l'Europe, prône un engagement plus grand à la fois pour l'Ukraine et à la fois pour mieux armer l'Europe, renforcer la défense européenne. Comment l'Union européenne peut-elle rattraper son retard en termes de défense face à la menace russe ?
Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a à la fois le soutien à l'Ukraine et puis après la construction d'une défense européenne. Donc sur le soutien à l'Ukraine, indéniablement, l'Estonie joue un rôle énorme et que je trouve extrêmement intéressant à observer depuis 2 ans. C'est-à-dire que à la fois concrètement, et on le voit en engagement et notamment, on suit tous un petit peu, je crois, en ce moment, le classement qui est fait par le Kiel Institute et qui nous donne les résultats de, une espèce de classement que font les différents pays.
Alors Kiel, c'est la ville allemande, effectivement, voilà. L'Institut Kiel, et qui donc classe les pays européens en fonction de l'aide qu'ils peuvent apporter à l'Ukraine. C'est
complètement.
Ça.
Et où on voit depuis des mois, ou depuis 2 ans quasiment, je pense, l'Estonie en tête, en part de PIB, en fait, dans son engagement sur l'aide militaire à l'Ukraine. Alors,
Il faut rappeler qu'il y a 3% du PIB, un peu plus de 3% du PIB, qui est consacré à la question militaire.
Tout à fait. Et ce que je trouve très intéressant, ça c'est l'aspect concret, mais c'est aussi la voix de l'Estonie, et en particulier en ce moment la voix qui est portée par Kaja Kallas, la première ministre, et qui joue un rôle énorme au sein de l'Union européenne et au sein des pays du groupe des pays qui aident l'Ukraine, pour pousser toujours plus loin. Et notamment avec des propositions très concrètes. Donc elle en a fait plusieurs. Elle a fait des propositions notamment pour des achats de munitions en commun. Là, elle a fait une proposition pour lancer des eurobonds pour l'achat d'aide pour l'Ukraine. Elle a fait aussi une proposition. Alors, elle fait partie des gens qui disent qu'il faudrait qu'en effet, ce soit le 3% du budget des États consacrés à la défense, que ça soit vraiment le plus bas, le minimum possible. Et là, elle promeut maintenant l'idée de que chaque pays consacre 0,25% de son PIB à l'aide à l'Ukraine, et en calculant et en disant voilà, ça serait potentiellement pas suffisant, parce que je ne sais pas ce qui serait suffisant, mais en tout cas ça serait vraiment marquer un pas. Et je trouve très intéressant en fait cette voix de l'Estonie qui du coup existe vraiment sur la voie sur la scène européenne et sur la scène occidentale en général, comme force de proposition pour aller plus loin et avec vraiment des idées innovantes, et c'est ce que je trouve le plus intéressant.
Tout à l'heure, vous parliez, Madame la Présidente Kersti Kallulaid, de Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez témoigner, peut-être, puisque en tant que présidente, vous avez dû le rencontrer, vous avez été présidente de l'Estonie de 2016 à 2021, de cette évolution du président Macron, puisque je crois que les Pays-Baltes et l'Estonie en particulier étaient assez fâchés au tout départ du fait qu'il disait qu'il ne faut pas humilier Poutine, et qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être surprise de voir cette position un peu radical qu'a pris depuis quelques semaines notre président.
En fait, non. Parce que moi, j'ai dit ici en Estonie, déjà beaucoup d'années, que le président Macron est le moins de russophile des hommes politiques de la France.
Ah oui, bah c'est bien que vous disiez ça, parce que ce n'est pas ce qu'on dit en France. Alors, allez-y.
Oui, et par exemple, quand la Russie a attaqué vos élections, oui. Avant le présidentiel, avant qu'il ait élu. Il a dit ça. C'est un acte énorme en ce moment, il faut dire. Donc, moi, je n'ai jamais eu de doute de où il va, si c'est nécessaire. Et c'est bien sûr qu'il parle des mots qui sont très, très importants. Mais en ce moment aussi, je pense que dans les médias de France, Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, a dit qu'en ce moment, ce qu'il faut vraiment, c'est l'argent ou la munition. Mmh. Mais la munition est faite de l'argent.
Vous voulez dire qu'il ne faut pas... Il y a une expression en France qui dit « il ne faut pas se payer de mots », c'est-à-dire il ne faut pas juste parler, il faut aussi agir, c'est ce que vous voulez dire.
Si on parle des nombres, il faut bien dire que l'Estonie, bien sûr, dépense 3%, mais en fait, c'est rien de spécial, parce que pendant la guerre froide, tous les pays de l'OTAN dépensaient environ 3% de leur PIB. Mais si on regarde qu'est-ce qu'on a fait, c'est vrai que l'Estonie a dépensé déjà 1,3 milliard d'euros pour aider l'Ukraine. L'Allemagne, 24 milliards. Le Canada, 4 milliards. La France, un peu moins, il faut dire. Donc, il y a encore d'espace pour aider l'Ukraine en envoyant les troupes, bien sûr. Et si on regarde qu'est-ce qu'il fait en Russie, ils dépensent un tiers de leur budget, 30% déjà, sur cette guerre. Et nous dépensons seulement 0,2. Rien, en fait. Donc, si on peut double, on sera en avance. Mais en ce moment, on peut voir déjà en Ukraine que le manque des ressources qui a commencé en novembre-décembre, ça a déjà des grandes, énormes effets négatifs.
Des conséquences.
Donc, finalement, si on finalement va trouver l'argent, les obus, tout ça, il n'y a plus d'hommes en Ukraine. Donc, c'est urgent maintenant de vraiment agir rapidement.
Béatrice Bougnol.
Oui, Céline Bayou, vous avez distingué tout à l'heure à la fois l'aide à l'Ukraine, et on vient d'en parler, et le renforcement d'une défense européenne. En quoi la voix de l'Estonie est singulière aussi pour appeler à un renforcement de cette défense européenne ?
Parce que je pense que l'Estonie y croit et que finalement, si on se positionne un peu avant 2022, il n'y avait pas tant de pays que ça en Europe qui y croyaient vraiment. Alors en l'occurrence, la France y croyait puisque le président Macron a vraiment, et ça a été lors de son premier mandat, l'une de ses premières propositions, qui d'ailleurs avait laissé pas mal de partenaires assez perplexes, et je ne suis pas sûre que les Baltes étaient les plus allants dans un premier temps, notamment parce que... dans un premier temps, la proposition a été prise comme quelque chose qui pourrait éventuellement évincer l'OTAN ou qui serait en concurrence avec l'OTAN, et qu'il a fallu un petit peu de temps pour convaincre tout le monde. Et puis cette guerre, en fait, l'apparition de cette guerre en Ukraine, qui du coup a fait prendre conscience globalement à tout le monde qu'il y avait vraiment une urgence à créer cette défense européenne. Et bon, plus la perspective des élections aux États-Unis, le retrait américain, etc. Mais je pense que maintenant il y a un consensus, et il y a un consensus très clair, en tout cas, entre l'Estonie et la France. Enfin, je pense qu'on est vraiment sur les mêmes positions par rapport à ce projet européen.
Que sait-on des plans militaires de Vladimir Poutine, Kersti Kaljulaid? Est-ce qu'on a une idée de ce qui menace, d'une certaine manière, au-delà d'une menace, disons, vague, qui semble présente, évidemment, mais est-ce qu'on a une idée de ce que voudrait Vladimir Poutine? On sait qu'il y a Kaliningrad qui est tout proche, il y a le corridor de Sovalski qui est ici présent aussi, et donc il y a toujours cette idée que, eh bien, effectivement, l'Estonie pourrait se trouver coincée par la puissance russe, mais on en sait plus que cela, ou on ne sait pas exactement ce dont il retourne exactement?
Non, en fait, on peut imaginer tout ça, le Kaliningrad ou le Sovalski Gap. Ou pourquoi pas une attaque nucléaire sur les villes de l'Europe, il a menacé ça aussi. Donc, il faut pas penser qu'est-ce qu'il peut faire. Il faut être prêt. Il faut être prêt qu'ils savent que s'il attaque n'importe quoi, comment, ou n'importe quoi, l'OTAN, ce sera vraiment dangereux pour lui. Et les dictateurs, ils sont très, très peur de fort. Donc, il faut être vraiment, vraiment fort à l'OTAN, être préparé. Les préparations de SACEUR sont vraiment bonnes, mais aussi là, on manque la capacité de production des armes et des obus. Et bien sûr, si l'Union européenne peut achever un peu d'indépendance dans les dépenses pour, disons, cohésion militaire, ce sera une bonne chose. Les armes, comment agir, c'est l'OTAN, mais pour financer notre défense, pourquoi pas par l'UE, c'est possible. Bien sûr que le traité nous dit que c'est pas possible, mais on a déjà soutenu l'Ukraine pour acheter les armes, et c'est pas dans le traité non plus. Donc, on peut faire ça, et moi je vois que c'est le meilleur rôle de l'Union européenne, parce que c'est quelque chose que l'Europe fait vraiment bien, c'est la cohésion. Comme l'ancien auditeur de l'Union européenne, je peux dire ça. Donc, avoir d'argent, peut-être avoir une prête pour défendre l'Europe,
un prêt
et agir rapidement, c'est quelque chose que l'UE peut, parce qu'il y a plus d'argent, plus de ressources dans l'Union européenne que dans les pays individuels. Et je trouve que peut-être aussi Les pays de l'Europe centrale et sud trouvent c'est plus simple d'expliquer pour leurs citoyens. Mm-hmm. Nos actes, si c'est fait par l'Union européenne, mm-hmm. pas directement. Donc moi, je suis prête à soutenir le nouveau parti de budget européen pour défense. Mais toute technique, ça, pour moi, restera avec l'OTAN. Comme ça, ça marchera le mieux, je pense.
Béatrice Bougnol.
Céline Bayou, à quoi l'OTAN doit se préparer? En fait, on sait qu'il y a des manœuvres prévues en 2024. Quel type de conflit, par exemple, peut être anticipé aujourd'hui?
Je pense qu'on ne peut rien exclure, en fait. Et c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il faut se préparer absolument tout. Et je pense que dans les menaces, et notamment celles qui pourraient peser sur l'Europe et plus spécifiquement sur l'Estonie, il faut vraiment regarder aussi toute la panoplie possible des menaces émanant de Russie et qui ne sont pas forcément conventionnelles, qui ne sont pas forcément nucléaires. Mais il y a aussi toute la menace hybride. Et l'Estonie en sait quelque chose. On a évoqué tout à l'heure l'attaque cyber qui avait eu lieu en 2007, il y en a eu d'autres depuis. On a vu aux frontières baltes et polonaises aussi des crises migratoires organisées et finlandaises, pardon, très récemment des crises migratoires organisées par la Russie ou la Biélorussie. Enfin, il y a toute une panoplie en fait d'outils de déstabilisation. Donc c'est pas forcément une invasion ou un cas extrême, mais il y a plein d'autres moyens de déstabiliser et les élections en font partie évidemment.
Est-ce que on peut penser, Kersti Kaljulaid, que il y a une difficulté pour les populations les plus à l'ouest de l'Europe comme la nôtre à envisager la question de la guerre. On voit bien le débat depuis que Emmanuel Macron en a parlé. Le mourir pour Danzig, qui a été cette grande discussion d'avant la Seconde Guerre mondiale, ressurgit aujourd'hui sur les réseaux, dans les discussions entre partis politiques. Est-ce que vous craignez justement un dissensus, ce qui est sûrement voulu par Vladimir Poutine? On terminera là-dessus, si vous voulez bien.
C'est ce que je veux dire. C'est dans ces moments, il n'y a pas aucune nécessité de mourir pour Danzig ou pour Tallinn ou Narva ou Vilnius ou Helsinki. Mais il y a vraiment, c'est nécessaire pour payer en ces moments, pour Kiev, pour Kharkiv, pour Dnipro. Mm-hmm. Parce que c'est la seule méthode d'éviter que ces guerres se trouvent dans le pays de l'OTAN. C'est la seule méthode. Il y a une magnifique opportunité. Comme j'ai dit déjà, les Russes dépensent un tiers de leur budget déjà. Si on double, c'est ce qu'on fait. On arrive dans le même niveau. Mais si on fait peut-être un peu plus, l'Ukraine va gagner ces guerres. Il n'y aura pas de nécessité de mourir pour Danzig ou une autre ville.
C'est ce qu'on appelle une conclusion. C'est une très bonne conclusion. Merci à vous, Madame la Présidente. Je rappelle que nous étions avec Béatrice Bougnol, notre partenaire de la Croix, pour cette émission, donc, Les Termes du Débat Européen, qui traitait de l'Estonie et de la défense, justement, des Pays-Baltes, en votre compagnie, Kersti Kaljulaid, ancienne présidente de l'Estonie de 2016 à 2021. Avec vous également, Céline Bayou, merci de nous avoir accompagnés en studio. Vous êtes chercheuse associée au Centre de Recherche Europe-Asie de l'INALCO. Et nous nous retrouvons pour un nouveau terme du débat européen. La semaine prochaine, nous parlerons de l'Italie et de la question des violences conjugales. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Mégy, Roxane Poulin, Fanny Richer, Anouk Sévenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Félix Delacour.